on va enchaîner, chers amis, on va continuer. Donc voilà, on voulait commencer cette émission Backseat en parlant de ce bel événement, le Battle 4, donc qui va avoir lieu tout le week-end. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. N'hésitez pas à kiffer tout le week-end. On va enchaîner avec... est-ce qu'on met un jingle maintenant? Ouais, vas-y, mets un jingle actu de la semaine, c'est parti. Venez vous installer, incroyable. On vous met tous du même côté ou pas? Je me rends pas compte, j'en sais rien, je sais plus. Comment on fait?
C'est ça qu'on nous...
Oui, tous du même côté. Ah oui, c'est à la pause qu'on change.
Eh oui.
Incroyable, chers amis, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonjour à vous qui nous regardez sur Twitch, ça fait plaisir de vous voir, bienvenue à vous qui nous regardez sur YouTube en replay, bonjour à vous qui nous écoutez en podcast. Cette semaine, on va continuer à parler de politique avec les meilleurs et les plus forts. On est avec Malek. Salut Malek.
Salut Jean.
Comment tu vas?
Ça va très bien, et toi?
Bon, écoute, ça roule, t'es chroniqueur, t'es conseiller en communication politique. Voilà quoi.
Ouais.
Et c'est cool de te retrouver. On est avec Antoine Bristiel. Comment ça va?
Eh ben, ça va très bien, Jean.
Antoine, doctorant en sciences politiques, directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès.
Tout à fait.
Ça fait plaisir que tu sois là. Et on est avec Latifa aussi cette semaine. Salut Latifa.
Oui, salut Jean.
Bienvenue, c'est ta première sur Backseat. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, Latifa. Tu es ancienne directrice du Bondi Blog et tu es l'actuelle présidente du mouvement qui s'appelle Le Mouvement.
Exactement.
Raconte-nous, c'est un mouvement, c'est quoi?
C'est une organisation de mobilisation citoyenne, donc on fédère sur différentes thématiques sociales, féministes, écologiques, antiracistes, etc. Les citoyens pour essayer de faire pression sur les décideurs et de faire bouger les lignes un peu.
Ok, d'accord. Latifa, première fois que tu viens faire de la chroniquerie sur Backseat, ça fait plaisir.
Ouais,
merci à toi d'avoir accepté. On va rentrer dans le dur du sujet, hein, les copains, parce que là, on s'est pas fait chier politiquement ces derniers jours. Depuis la dernière émission Backseat, il s'est passé des trucs. Genre, par exemple, une décision du Conseil constitutionnel.
T'es sûr de ça?
Ouais, 2-3. Une décision du Conseil constitutionnel qui valide l'essentiel de la réforme, on va en parler, la réforme des retraites, hein, El Famoso. Une allocution du président de la République sur Twitch, lundi. Pour dire des trucs.
En exclusivité sur Twitch
d'ailleurs. Non, j'ai autorisé les autres médias à la diffuser, okay. Aussi. C'est important. Donc voilà, on commence direct la décision du Conseil constitutionnel. Je le disais, le Conseil constitutionnel donc a validé la réforme après moult tractations. Même moi, je me suis emballé le vendredi en disant, vas-y, tu sais quoi, il y a moyen qu'ils censurent et tout, ce serait marrant, nouvelle jurisprudence et tout.
Non.
Pas du tout. On s'y attendait, fallait pas s'y attendre. Qu'est-ce que vous en pensez, Malek?
Je t'ai suivi sur ton prono, hein, vendredi.
Ah, toi aussi, t'y as cru, hein.
J'y ai cru, je vais pas mentir. Ça pose une vraie question sur... je suis désolé, mais sur le rôle du Conseil constitutionnel, sur est-ce que du coup, est-ce qu'il faut pas refermer cette maison de sages
C'est-à-dire parce que la décision ne peut pas réformer, il faut supprimer
l'institution. L'EHPAD de la République, tu vois.
Ah bah on va en parler d'ailleurs, quand on préparait l'émission, on parlait, ouais, non, je te sens bien Malek, on parlait de ça justement, la composition du Conseil constitutionnel a soulevé beaucoup de commentaires, de discussions, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question la semaine dernière, c'est qui ces 9 sages, ils sont nommés par qui, oulala mais ils viennent du politique, qu'est-ce que c'est que ce bordel, etc. C'est un truc que l'on perçoit en ce moment dans l'opinion publique, le questionnement sur la composition du Conseil constitutionnel.
Bah en fait, on a, je le dis très souvent, on a tous des gens autour de nous qui n'étaient pas très au fait de ce qu'était une motion de censure, le Conseil constitutionnel, etc., une potentielle censure. Et on a tous des potes qui s'y sont plus ou moins intéressés et qui y ont cru et qui se sont dit « Ok, il y a quand même des socles, il y a des garde-fous dans cette histoire et il faut y croire. » Et il y a des espoirs qui sont tombés. Même moi qui suis dedans, je vais dire la vérité, même le mien est tombé. Et ça pose une vraie question sur l'indépendance en fait, du Conseil constitutionnel, parce que oui, nommé par le politique, ben oui.
Oui. On rappelle comment sont. Vas-y, fais-le.
Le président de la République, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, en l'occurrence, elle l'a pas encore fait, mais elle le fera bientôt. Nomme des membres au Conseil constitutionnel et il y a des voix qui sont en train d'appeler à la réforme du Conseil constitutionnel et pas forcément des affreux gauchistes. On parle encore une fois du groupe Liot, encore eux. Ils font une proposition que je trouve intéressante, qui est de soumettre la validation des candidatures au Conseil constitutionnel aux 2/3 des parlementaires, Et que ce soit sur des compétences juridiques.
Aujourd'hui, ouais, depuis 2008, ils sont auditionnés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais il n'y a pas de vote. Y a pas de... Parce que ça risque de renverser le problème et de créer du coup un conseil constitutionnel soumis au pouvoir législatif qui peut le saisir. Donc,
Oui.
Antoine, l'opinion publique, on a vu des mouvements de ce côté-là. Comment est-ce qu'elle perçoit cette décision du conseil?
Je ne pense pas qu'il y avait une attente qui était majeure par rapport à la décision du conseil.
Ah ouais.
Nous, on est un peu des geeks de la politique, hein, si j'en ai envie de... On peut le dire.
Non, oui, complètement, on est des aliens. Non, mais c'est vrai.
Du coup, on se demandait ce qui allait se passer avec le Conseil constitutionnel, mais je pense pas que quand tu regardais les différentes enquêtes d'opinion, il n'y a rien qui...
Ouais, remonte ton micro, pardon.
Terrible.
Attends, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un vote. Les gens, ils disent dans le chat qu'il y a un vote. Mais ils votent pas, les commissions votent. Ah oui, si. Attends. Double proposition intéressante. Non, j'ai un doute. Je sais plus. Merde, hey, les geeks encore plus geeks que nous. Excuse-moi, je t'ai coupé, parce que du coup, si j'ai dit une connerie, il faut me le dire. Excuse-moi, Antoine, continue.
Oui, non, il n'y avait pas une attente qui était forte. Hein. Tout le monde, la plupart des gens s'attendaient à ce que la décision valide la réforme. Et par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que suite à cette décision du Conseil constitutionnel, j'ai ramené des chiffres, tu as 35% des gens qui disent « la mobilisation doit s'arrêter ». Le reste, du coup...
Un tiers, quand même. Hein.
Un tiers qui dit « la mobilisation doit s'arrêter ». Mais c'est à peu près le même niveau qu'on voyait avant.
Ok, d'accord.
Et par contre, tu as 45% de la population qui te dit « la mobilisation doit se durcir avec des nouvelles formes d'action ». Et ça, je pense qu'on va en reparler après.
Ah bah, carrément.
On a vu. Mais tu vois, il s'est quand même passé quelque chose en termes de « on n'en attendait rien ». Effectivement, il ne s'est rien passé.
On est quand même déçus. Ouais.
On est quand même déçus, mais derrière, c'est peut-être davantage d'ailleurs la prise de parole de Macron qui a suscité un peu. Mais bon, ça, on va en reparler.
Oh là oui.
Donc, que la décision du Conseil en elle-même.
Bon, le Conseil constitutionnel valide un dispositif qu'il reconnaît pourtant comme étant inhabituel, pour citer les mots des sages, c'est-à-dire. Projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, donc un texte que tu n'es pas censé adopter autrement que pour faire des trucs relativement techniques, on ne va pas se mentir. Utilisation de l'article 47.1 donc qui réduit le temps des débats, utilisation de l'article 49.3 qui permet de se passer de vote, utilisation même du vote bloqué. Tout ça, ce sont des trucs constitutionnels. Donc le Conseil constitutionnel a dit, voilà. voilà, c'est constitutionnel. Ça pose quand même des questions, Latifa.
Ouais, on en a un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'on fait un peu de l'esprit de la Constitution? Est-ce qu'il n'est pas garant, en fait, aussi de ça? De se dire, est-ce qu'on peut vraiment, t'as parlé des articles qui étaient utilisés, le fait qu'on utilise un projet de loi rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale, donc, qui limitait aussi le temps de débat, donc ça veut dire que là, on pouvait débattre que 20 jours seulement de ce projet de loi devant l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vraiment, suffisant pour un projet de loi comme celui-là? Et est-ce que c'est justifié? Donc, Et de la même manière, en fait, on fait un 49-3 parce qu'on sait qu'on va pas avoir de majorité, donc il n'y a pas besoin, je pense, pour le coup, d'être de fin juriste et de fin limier pour se rendre compte que quand même
c'est pas dingue,
c'est pas tout à fait sur un plan démocratique. On a quand même 2-3 trucs à dire, je crois, et donc du coup, ouais, c'est là où, en fait, pour moi, le Conseil constitutionnel doit aussi intervenir. Alors peut-être qu'il y a plein de juristes qui vont avoir leur poil se hérisser quand je dis ça, et que ça doit peut-être aussi aller au-delà. Voilà, de contrôler un peu cet esprit-là et de prendre la procédure dans son entièreté, et au-delà de l'aspect purement juridique et purement technique, de se dire que l'aspect politique doit être un peu jugulé, quoi.
Mais en vrai, moi je défends le truc parce que évidemment, c'est normal, hein, le Conseil constitutionnel a constaté que la Constitution permettait ça. Donc en fait, la crise politique est rendue possible par notre Constitution, donc notre Constitution allait à chier. C'est un peu la réflexion. Mais quand on parle d'esprit de la Constitution, l'esprit de la Constitution de la Ve République, c'était quand même le pouvoir à la majorité à l'Assemblée nationale. C'était ça l'idée. Or, il n'y a pas de majorité en ce moment.
C'est ça.
Et Macron a quand même le pouvoir. Donc en fait, moi je suis d'accord pour dire que même la Ve République est dévoyée. Pourtant, je sais que je suis pas un grand défenseur de la Ve, on va pas se mentir, mais même Lina a rediffusé des trucs de Debré à l'époque, etc., qui disait, mais enfin, c'est la majorité qui décide, et puis s'il y a besoin, on retourne au peuple, soit par dissolution, soit par référendum et tout. Même ça, on n'y est plus. C'est quand même fou. C'est pour ça que je suis assez d'accord pour dire, putain, même l'esprit est pas respecté, quoi.
La décision du Conseil constitutionnel, elle est encore plus à contester, peut-être, parce qu'on a un petit visuel avec la composition du Conseil constitutionnel. On a deux membres, dont Laurent Fabius, qui ont été nommés par le PS, donc par Claude Bartolone et François Hollande à l'époque.
Ouais.
Et ensuite, on a quatre membres qui ont été nommés par la majorité d'Emmanuel Macron, soit par Richard Ferrand, soit par Emmanuel Macron himself, ou par Richard Ferrand, oui, je l'ai dit. Et de l'autre côté, on a trois membres qui ont été nommés par le président du Sénat, Gérard Larcher. Ces petits ronds de couleur.
Ça indique quoi? Ça indique par qui ils ont été nommés, c'est ça?
Ben oui.
Ah oui, d'accord, ok.
Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, moi, ça peut pas, moi je ne peux pas occulter ces petits ronds dans la lecture de la décision.
C'est-à-dire que ça les marque. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un marquage.
Et puis, je suis désolé. À un moment, moi, j'ai commencé par une aventure militante. On m'a appris le rapport de force. Et ben, je suis désolé, je regarde le nombre de partis, l'un contre l'autre. Je vois 4 membres nommés par LREM, 3 nommés par LR et 2 nommés par le PS. Et je me pose des questions.
Je précise quand même qu'ils sont nommés, ils peuvent pas être renommés après leur mandat, hein, c'est un mandat unique, donc justement pour ne pas dépendre d'une renomination et tout, donc c'est une garantie d'indépendance qui a son importance, qui à mon avis faudra conserver. Je précise aussi que le Conseil constitutionnel a déjà par le passé eu le courage de s'opposer à des gouvernements, y compris ceux qui les avaient nommés. On a vu des décisions du Conseil constitutionnel contre la loi Hadopi, on a vu la décision du Conseil constitutionnel contre la loi sécurité globale, c'est sur le fait de filmer les flics, on a vu le Conseil constitutionnel censurer la loi Avia sur Internet, là, sur la lutte contre la haine en ligne. Voilà, c'est pas, enfin, je voudrais pas laisser croire que le Conseil constitutionnel se fait marcher sur la tronche par l'exécutif. Disons que quand il s'y met, il peut faire preuve de courage, oui. Et que peut-être que beaucoup de gens attendaient qu'il fasse preuve d'un peu d'innovation et de courage vendredi dernier.
Mais ce qui est étonnant, quand tu regardes un peu la décision qui a été rendue et quand tu regardes un peu l'argumentaire, c'est ce que soulevait Dominique Rousseau, qui est un constitutionnaliste justement, en disant que tout indiquerait dans les premières lignes de l'avis que les principes de sincérité, de clarté du débat public n'ont pas été, du débat parlementaire n'ont pas été respectés avec ce projet de loi, notamment parce que les parlementaires n'avaient pas les bonnes informations, on en avait déjà parlé ici sur le plateau, et finalement, il remet quand même pas en cause au final le texte en lui-même et la façon dont les débats se sont déroulés. Donc ça, c'est un peu étonnant quand tu regardes quand même la décision en elle-même.
Il y a le sujet de la promulgation dans la nuit de la loi. Emmanuel Macron a promulgué la loi. Donc je rappelle que la promulgation, c'est la toute dernière étape. C'est le moment où le président de la République met sa signature en bas du document pour certifier que la procédure a été suivie jusqu'au bout et tout. C'est pas censé être un acte politique particulier. En réalité, il promulgue des trucs toute la journée.
T'es pressé de passer à autre chose. Hein.
Voilà, justement. sauf que là, une interprétation politique en est faite parce que le président de la République a promulgué la loi immédiatement après avoir eu connaissance de la décision du Conseil constitutionnel. Et le journal officiel, donc, que personne ne lit, tout le monde s'en branle, mais c'est normal, il paraît à 4 heures du matin comme tous les jours et il publie, c'est le journal officiel, hein, c'est chiant à mourir, il publie les actes de la nuit, tout ce compris, hein, les décrets, les lois, les machins. Et donc voilà, il y a eu une micro-polémique sur promulguer dans la nuit, polémique ou pas polémique? Moi je dis on s'en branle, c'est pas important.
On s'en tape.
Ouais, okay. Franchement, ça.
D'accord, ok.
En fait, c'est plutôt la temporalité, le timing, enfin pourquoi le lendemain dans l'immédiat pour passer à autre chose, comme le dit Antoine, oui, mais. Et en fait, je pense que la séquence c'était ça. C'était les gars venez, on promulgue, le truc est publié, on fait la petite allocution lundi et on ouvre la séquence d'après. Ouais, mais c'est pas comme ça la vie, mon pote.
Oui, non, mais non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, l'allocution, parlons-en. L'allocution d'Emmanuel Macron, donc en direct à la télévision. Alors, moi, elle m'a surprise. En tout cas, son début d'allocution m'a surpris parce que j'avais suivi, j'avais diffusé, j'avais commenté son interview d'il y a 3 semaines maintenant. J'ai l'impression que tout le monde lui a dit elle était à chier ton interview. Vraiment, hein, le truc où tu dis coûte que pas coûte que coûte, mais vaille que vaille ou non. Attends, qu'est-ce qu'il a dit à la fin?
Impossible n'est pas français.
Non, on va réformer, on va continuer à réformer au forceps ou je sais pas.
Ah non, attends.
Quel.
Oh, je l'ai.
Le chat, vous allez l'avoir. À marche forcée.
À marche forcée.
À marche forcée, voilà. L'espèce de flegme qu'il avait pour dire mais il n'y a pas de crise démocratique, je veux dire tout va bien, etc. Les violences, ni faction, etc. Envoyer dos à dos la violence des policiers et tout. Ce qui me fait dire ça, c'est que le début de son allocution, je l'ai trouvé très straightforward dans le côté ça va pas. Cette réforme a soulevé des problèmes sur l'injustice. Il a utilisé le mot injuste en disant le travail est injuste, etc. Cette réforme est-elle acceptée? De toute évidence, non. Donc j'ai envie de dire, il enfonce des portes ouvertes, mais rien que le simple fait qu'il le fait, moi j'ai commencé l'allocution en disant tiens, c'est intéressant, il nous emmène où avec ça? Bon, et finalement, il nous emmène sur j'avais raison depuis le début, regardez la suite du projet, en fait, on va continuer. Bon.
Ouais, et puis moi je l'ai presque mal pris, je dis vous le vouliez pas, je l'ai fait quand même. Ouais, on a compris en fait, ça fait des semaines qu'on veut pas. Et en plus il nous le redit au tout début, j'étais là non mais c'est de la provocation quoi. Enfin oui, on sait.
Du coup toi tu l'as vu comme une provocation là, Tiffa?
Le début ouais, ça m'a agacé. Enfin c'est des choses qu'on avait déjà entendues et ouais c'était vraiment ça. Il avait comme
c'est-à-dire
si...
que c'est encore pire. Il en a conscience
en plus. Ouais, je l'ai fait. Enfin c'est bon, ouais je l'ai fait. Vous étiez pas d'accord? Oui, on a compris.
Dont acte. Antoine.
Je pense qu'il y a deux choses qui étaient assez intéressantes. La première, c'est quand tu vois qu'il dit qu'il faut faire de la concertation, renouer le dialogue avec les partenaires sociaux. Quand tu vois que les partenaires sociaux, justement, les syndicats ont essayé d'aller taper à la porte de l'Élysée pendant toute la séquence et qu'ils n'ont pas été reçus, bon, je pense qu'il y a un peu de quoi être énervé dans leur cas. Et la deuxième chose, c'est que quand tu regardes la perception qu'ont eu les Français de l'allocution...
Alors, ils en ont pensé quoi?
Ah bah c'était 78% qui n'ont pas été convaincus par l'allocution. C'est le pire niveau qu'il ait fait depuis 2017. Donc,
non, alors, pour le coup, non, mais pour le coup, vraie question. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de rupture tel que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent,
oui, bien sûr.
C'est dead, c'est mort, c'est ciao, bye, bye. Je dis ça aussi sur, en constatant que le soir de l'allocution, une initiative a été lancée sur Twitter par l'association Attaque, proposant aux Français d'aller taper sur des casseroles pour faire du bruit pendant l'allocution, manière de lui dire on ne veut même pas t'écouter, etc. Et en fait, le mouvement des casseroles a continué. Et justement, il est parti en tournée, il est allé en Alsace, il était aussi dans l'Hérault, etc. Et en fait, c'est casserole sur casserole sur casserole. C'est intéressant la symbolique de la casserole, ce côté, mais faire, en fait, on ne veut même plus t'entendre. Il y a une espèce de rupture qui s'est faite.
On l'avait dit le soir de l'annonce du 49-3 par Elisabeth Borne. J'avais dit, attention, je pense qu'on arrive peut-être à un petit point de rupture et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et là, en fait, on ne fait qu'avancer vers ce point de rupture-là. Lundi, on nous a parlé d'apaisement. Avec un discours, dans l'intention qui était plus de la provocation que de l'apaisement. Et puis surtout, on a des petits offs qui sont sortis. On a appris que Emmanuel Macron, avant d'enregistrer son allocution, a dit à ses proches, il faut être dur avec ceux qui veulent nous crever la paillasse. Et il y a un député LREM qui l'a croisé tout à l'heure dans l'Hérault, Patrick Vignal, qui lui a dit, mais je suis prêt à faire la guerre, président. Prêt à leur faire la guerre.
Mais à qui il parle?
À Emmanuel Macron.
Non, mais il parle de qui quand il dit ceux qui veulent nous, je sais pas quoi là.
Eh ben, c'est la question que je me pose, Jean.
Ceux qui passent dans le coin.
Mais sauf qu'en fait, quand on est président de la République, on n'a pas à faire la guerre à qui que ce soit, quoi. Et encore moins en français.
Au contraire.
Quoi.
Voilà. C'est ça. Non, mais bien au contraire. Latifa. Comment t'analyses toi la séquence là qui vient de s'ouvrir depuis lundi, qui est un peu lunaire, ses déplacements et tout?
Ouais, il essaye en fait, comme il le fait depuis le début, un peu en bulldozer, de dire non, mais moi je vais continuer, on va aller voir les Français, qu'il a dit aujourd'hui encore, il va falloir expliquer encore la réforme des retraites, en parler, faire preuve de pédagogie, alors que là, on va laisser de côté l'aspect un peu méprisant, quoi. Je pense que les gens, ils ont quand même plutôt compris de quoi il s'agissait, qu'il n'y a pas besoin d'expliquer encore et encore. Et il essaie un peu de faire un marche forcée, quoi. Et puis même pour la fin de l'allocution, les mesures qu'il a données, c'est presque les procédés rhétoriques, il dit des choses avec. En fait, on ne peut pas ne pas être d'accord quand il dit « d'ici à fin 2024, on va désengorger les urgences ». Qui n'est pas d'accord avec ça, en fait? Qui va dire « quelle horrible mesure ?» Mais en fait, comment on fait après? Comment ça se passe? Et plein de choses comme ça. Vous n'allez pas reconnaître votre école à la rentrée 2023.
Et le soleil, c'est mieux que la pluie aussi.
Son summum, son spécial « libérons les énergies ».
Oui, qui n'a jamais rien voulu dire. C'est assez extraordinaire.
Il aime trop le dire. J'ai toujours pas compris.
Pas très bien compris.
En termes d'énergie, c'est quand même assez rigolo que la CGT coupe le courant à chaque fois qu'il est dans un endroit. Mais il y avait un économiste sur Twitter qui avait mis que, en gros, c'était un nouvel Interville maintenant, que chaque village dans lequel il allait trouver une nouvelle forme de protestation, une nouvelle forme d'opposition. Et là, sur un point un peu plus sérieux, on voit quand même que c'est aussi une sorte de bascule dans le mouvement d'opposition qu'il y a désormais. Enfin, c'était les syndicats qui ont été à la tête de la contestation pendant toute la période. Et là, c'est en train d'être des formes d'auto-organisation de la protestation. Ouais. Et ça rappelle quand même davantage les Gilets jaunes que ce que l'on avait vu pendant toute la séquence des retraites, où c'était les syndicats, des manifs classiques et une opposition beaucoup plus...
Non, mais c'est vrai, vous voyez les images là, qu'on diffuse derrière, vous voyez bien qu'il y a peu de drapeaux. Il y en a quelques-uns de la France insoumise, mais en réalité, il y a assez peu de drapeaux d'ordre syndicaux. Ce ne sont d'ailleurs pas des rassemblements à l'initiative des organisations syndicales. Ouais. Justement, pour parler des organisations syndicales, la suite du programme, c'est 1er mai, fête du travail... journée traditionnelle de mobilisation des syndicats, mais là, cette année, elle est promise pour avoir une teinte particulière autour de la réforme des retraites et de la crise démocratique. Laurent Berger, avant de laisser sa place, on va en parler.
Malédiction Baxit.
La malédiction Baxit, on est dessus. Avant de laisser sa place à la tête de CFDT, il a dit qu'il avait appelé à casser la baraque. Alors, ce qui fait un peu pitié dans l'expression, parce que c'est un peu boomer, mais dans les mots, quand t'es responsable du premier syndicat de France, etc., c'est... Là aussi, le point de rupture, il est vénère quand même.
Dans la bouche de Laurent Berger, déjà.
Oui, c'est ça, dans la bouche de Laurent Berger, quoi. C'est quand même... Antoine.
C'est assez étonnant quand même. Enfin, c'est pas de leur faute, c'était prévu comme ça, mais que les principaux leaders, que ce soit Philippe Martinez d'un côté et Laurent Berger, partent en plein milieu de... Enfin, pas en plein milieu, mais en tout cas dans cette phase qui était quand même ultra... ultra importante pour les syndicats. Donc, à voir comment ça va se passer à la CFDT avec... un nouveau leader.
Donc Laurent Berger, donc, qui a annoncé qu'il laisserait sa place le 21 juin prochain, comme c'était prévu, parce qu'il avait déjà annoncé apparemment, à Marie-Lise Léon, qui est actuellement numéro 2 du syndicat. Oh, ouais. Donc c'est pas un départ en claquant la porte sur un échec, sur une mise en minorité, c'est un départ prévu, organisé. Je pense même, parce que moi je me suis dit, putain, c'est vachement tôt d'annoncer ça en plein mouvement et tout. En fait, je pense qu'il, justement, il veut la catapulter à l'occasion du 1er mai, en disant, mais là, faut que tu fasses des télés, faut que tu fasses des caméras, parce que moi je suis plus là le 21 juin, donc je te balance maintenant.
Ils ont fait leur première interview là ensemble, et puis il dit qu'en fait ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est à ses côtés et qui mène ça à deux, que c'est sa numéro 2 et que voilà, elle va mener ça d'une main de maître. On va avoir deux femmes à la tête des deux principales organisations
syndicales. Sophie Binet à la CGT et Marie-Lise Léon à la CFDT.
Bah d'ailleurs, à la CGT, ça s'est bien passé. Enfin, le passage de témoin entre Martinez et Sophie Binet, ça s'est passé sans accroc.
Ouais, il y avait eu Jules sur le plateau la semaine dernière qui nous expliquait que le congrès de la CGT, c'est pas super bien passé, que c'est un peu compliqué, que c'est tendu en interne et tout. Bon, après, c'est usuel, hein, mais... Non, mais c'est pour le coup, il a eu des gens de la CGT au téléphone qui lui ont raconté un peu les coulisses, et il est venu nous apporter ça sur le plateau la semaine dernière. Latifa, la suite du programme, il y a aussi des parlementaires qui veulent pas lâcher la pression et refuser de passer à autre chose.
Oui, évidemment, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme pour tout, en fait. Personne sait. J'ai l'impression que là, tout le monde est en train de se réorganiser, voilà, de se reconcerter, de savoir dans quel ordre de bataille on se met et comment on fait ça. Mais oui, ça c'est assez évident, quoi.
Il y a donc le référendum d'initiative partagée qui a été déposé par tout un paquet de députés. On attend la décision du Conseil Constitutionnel qui va tomber le 3 mai ou le 13 mai, je ne sais plus. Mais un jour. Donc on verra si on ira jusqu'à un référendum d'initiative partagée, mais de toutes les façons, ça prendra beaucoup de temps. Ouais. D'ici là, il y a des discussions en cours pour le dépôt d'une nouvelle motion de censure en lien avec le fameux groupe Liot à voir. Mais il y a un autre truc qui va arriver et qui, pour moi, est vachement plus intéressant. J'ai retweeté un thread d'un constitutionnaliste sur le sujet sur Twitter qui parlait de cette loi d'abrogation. Mm-hmm. Je rappelle qu'une loi d'abrogation, c'est rien d'autre qu'une loi qui dit on annule la loi qui a été votée. Enfin voilà, on annule telle loi. C'est ça, une abrogation, c'est pratiquement une motion de rejet, en fait, rétrospective, quoi. Et en fait, c'est très intelligent, cette stratégie, parce que ça va forcer le vote qui n'a pas eu lieu sur l'article 7, le fameux vote qui n'a jamais eu lieu sur les 64 ans. En fait, les députés vont réussir, par une proposition de loi, à forcer le vote sur ce truc-là, qui est en fait beaucoup plus difficile pour la majorité de réunir une majorité de pour que de gens qui s'abstiennent de voter une motion de censure. L'autre truc, c'est que ça va remettre dans l'agenda parlementaire, donc ça va empêcher le Parlement de passer à autre chose, même si le gouvernement en meurt d'envie, et que par ailleurs ça va envoyer le message aux manifestants, aux Français et tout, que tout ce qu'a fait le Parlement peut le défaire. Donc cette réforme des retraites là, elle n'est pas éternelle, en fait. Il suffit d'un vote et en fait c'est terminé, on revient au système d'avant et tout. Donc à suivre, il y a une vraie guéguerre en ce moment sur est-ce qu'on passe à autre chose, est-ce qu'on passe pas à autre chose, entre les manifestants, tu l'as dit, les syndicats, les manifestants, les partis politiques, etc.
En partant de cette hypothèse, en plus que certains vont évoluer, notamment au sein du groupe LR dans leur vote, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, parce que certains sont retournés en circonscription et parce que la colère ne fait que grandir. Et sur ce qu'on parlait de la suite, je pense que ça va être très très compliqué, pour ne pas dire impossible. En fait, là, Emmanuel Macron va s'entêter avec ses ministres à faire des déplacements ou à les annuler. Et ils vont se manger des concerts de casseroles à chaque fois. Jusqu'à quand ? Ça va être...
Il a dit 100 jours, hein. J'ai l'impression que les manifestants, ils ont fait « vas-y, chiche, et, t'es chaud ».
Tout à l'heure, il a répondu à une Française qui appelait à sa démission, il lui a dit qu'il fallait attendre 2027. Voilà, et qu'il ne démissionnerait jamais. Ah bah. On n'appelle pas à sa démission, enfin voilà, je pense pas que ce soit la solution. On demande juste l'abrogation de la loi qui vient d'être votée, ou pas, d'ailleurs, pas votée. Mais qu'allais-je dire ? Et puis, qu'est-ce que ça va être aussi la stratégie politique pour la suite ? Est-ce que ça va être d'agrandir sur sa droite ce que n'a pas réussi à faire Elisabeth Borne.
Alors,
certains parlent même d'un...
Vas-y.
Alors, il y a un petit bruit qui court, c'est qu'il y a un personnage qu'on connaît tous dans la vie publique qui rêverait d'être Premier ministre. Vraiment, il en rêve la nuit, jour et nuit. C'est Nicolas Sarkozy. Et on connaît un petit peu ses relations.
Tu sais que depuis que tu me l'as dit, ça trotte dans ma tête. J'en ai parlé hier,
moi,
c'est ce que je suis en mode. Mais attends,
j'ai pensé toute la nuit. Et on connaît ses relations qui sont assez rapprochées avec Emmanuel Macron. Ah oui. Est-ce que ça serait une solution pour composer une majorité avec LR et être tranquille jusqu'en 2027?
Est-ce que lui aurait l'autorité que n'a pas eu Éric Ciotti de faire voter les mecs? Non, mais vraiment, ce n'est pas sûr. Hein. Faut faire attention à ça. Hein. C'est pas parce qu'il est issu de la droite républicaine. Aujourd'hui, il y a un groupe minoritaire de la droite républicaine dont on a besoin des votes, que automatiquement, parce que c'est Sarko, ils vont dire oui. Hein. Antoine.
Vous voulez nous faire faire des cauchemars
ou... Fais ce que tu veux, hein. Non, mais, quand on préparait l'émission, tu me parlais justement de ces anciens politiques qui veulent revenir.
Non, mais c'est clair. Mais je regardais d'ailleurs le baromètre des cotes de popularité des différents hommes et femmes politiques. Et Nicolas Sarkozy, il est cinquième dans le baromètre des personnalités politiques.
Ah bon, bah c'est donc, bon pas, alors.
Mais justement, mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, et c'est un peu le cas aussi de François Hollande, qui est bien placé dans ces baromètres-là, c'est que. Ils sont bien placés parce qu'ils ne parlent pas. Et c'est qu'à partir du moment où ils reviendraient sur le devant de la scène, ça serait à nouveau une catastrophe. Mais je pense qu'ils voient ces chiffres-là, parce que c'est des hommes politiques qui sont,
mais ça les titille de ouf.
Fans de ça. Et oui. Du coup, ils se disent « Ah mais oui, mais quand même, il y a peut-être une place. Et puis bon, je voulais redevenir président, et puis je n'ai quand même pas pu. Alors bon, ce serait peut-être l'occasion de redevenir Premier ministre. » Non, mais je pense que oui,
Ça me fait penser aux militants qui en pleine campagne te disent je sens qu'il y a une vague là, on sent que les gens sur le terrain et à chaque fois ils se convainquent eux-mêmes qu'il y a un appel, tu vois.
Tu la sens l'odeur de la victoire.
Oui, c'est ça. Tu sais, on le voit pas dans les sondages. Non mais ouais. Moi je le vois différemment parce que je sens comment les gens nous parlent et je sens qu'il y a un truc et tu dis il y a un truc qui monte, tu es en train de te convaincre tout seul, il y a rien du tout et c'est un peu ça, je suis d'accord avec toi, le côté arrêter de rêver un retour. En fait, c'est parce que vous êtes plus là que les gens vous aiment bien, parce que machin. Macron, dans les années 2050, tu vois que dans les baromètres, les gens diront ouais. Non, j'en sais rien, on verra
pas
bien.
Pas sûr.
Latifa.
En tout cas, si je le croise, moi, je pense pas. Mais...
Latifa, du coup, à quoi on peut s'attendre pour les prochaines semaines?
Pas Sarkozy Premier ministre? Non, j'espère. Non, mais de toute façon, enfin, comme je crois que c'est ce que Macron a dit, que de toute façon, ça. Là, il attend que la contestation passe, en fait. Là, bon, il ne fait pas vraiment le dos rond parce qu'il va quand même en représentation. Il rencontre les Français. Mais je pense que le 1er mai sera un peu le dernier, dernier tour de piste. Un peu, ouais, voilà, c'est ça, le dernier grand rendez-vous pour la mobilisation. Mis à part si les Français essaient un peu de réinventer des modes de mobilisation qui soient différents. Faut aussi se dire que voilà, il y a plein de réalités économiques, etc., chez les grévistes, qui contraignent malheureusement à lever un peu le pied. Mais voilà, ouais, c'est pas très optimiste. Désolée.
Oui, je me posais juste une question très rapide. Est-ce que, parce qu'il y a un niveau de détestation qui est fou chez Emmanuel Macron, je suis en train de me demander, est-ce que Nicolas Sarkozy c'était...
Oui.
C'est la même ou c'est pire?
Mec, 2011, Nicolas Sarkozy, c'était un niveau de...
Mais oui, je sais, je me rappelle du salon de l'agriculture, etc., mais je me demande si c'est pas pire aujourd'hui.
Non, enfin... C'est à peu près. Moi, je me méfie toujours. C'est toujours les gens qui disent ouais, c'est le pire ministre qu'on a jamais eu. À chaque fois, je leur dis putain, mais vous avez juste oublié comment on parlait de son prédécesseur il y a 5 ans, 10 ans.
Ouais, ouais, ouais.
Non, si, Nicolas Sarkozy.
Ouais, Nicolas Sarkozy, c'était plus. En plus.
À tel point que François Hollande a réussi à le battre, tu vois, on en est là. Ouais. À un moment, les Français étaient prêts à tout, même à Hollande, pour passer la page de Sarkozy, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Chers amis, avant de passer la pause, je vous rappelle que cette émission Backseat, elle est rendue possible par vous. Merci pour vos dons. Merci pour votre soutien à l'émission Backseat. Je vous rappelle que la plateforme Utip a mis la clé sous la porte il y a 2 semaines. On a été obligé donc de changer de plateforme de financement participatif en cours de campagne. C'est pas facile pour nous, on est un peu dans la sauce, même si tous les dons que vous avez faits sont bien allés à Backseat, et ça, soyez rassurés, il n'y a pas eu de perte d'argent, mais on n'est pas encore au bout de l'objectif. Il nous reste encore 100 000 euros à récolter d'ici la fin de la saison pour réussir à financer toutes ces belles émissions. N'hésitez pas à vous rendre sur KissKissBankBank. Voilà, le lien est dans le chat, le lien est en commentaire de cette vidéo sur YouTube et tout. N'hésitez pas à aller faire un don, à participer. Pour l'instant, sur KissKissBankBank, vous ne pouvez faire qu'un don mensuel, un abonnement comme ça s'appelle sur KissKissBankBank pour donner de l'argent tous les mois, et merci à toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Bientôt, on va mettre en place, donc KissKissBankBank est en train de développer l'outil qui va permettre de pouvoir faire des dons ponctuels pour ceux qui veulent juste donner à un moment. On va retravailler les contreparties, etc. On a ouvert pour que vous puissiez venir dans le public ici, physiquement, regarder l'émission, boire des bières et manger des nems. Vous pouvez aller sur Wiz Event pour acheter votre place. Merci à toutes les personnes qui le font, ça fait super plaisir de vous voir chaque semaine. Et on est en train de travailler aussi à ouvrir un shop pour vous permettre d'acheter des fringues magnifiques qui soutiennent aussi financièrement l'émission. Donc on est en train de mettre tout ça en place, on a encore besoin de votre soutien. On va marquer une petite pause et juste après la pause, on va diffuser un best-of de ma chaîne. Mais juste après la pause, on se retrouve avec notre invitée politique, la députée de la majorité, Barbara Pompili. C'est parti, la pause.